Je m'appelle Boris. Je suis expert solutions énergétiques EDF pour les entreprises. En ce moment, beaucoup de clients me demandent comment réduire l'empreinte CO2 de leur entreprise. Ils savent que c'est important pour la planète et leurs factures. Ils veulent passer à l'action. Alors avec notre offre Décarbone, nous programmons ensemble une visite qui les éclaire sur leur impact CO2 et je leur propose des solutions adaptées à leur entreprise.
Et ça, c'est mieux pour la facture.
EDF. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Was weiß ich? Doch dir fahr ich zu leid. Zur Tat berät jetzt des blühenden Tod. Merk, wie's endet. Acht auf mich.
Woher ich stamme, rate mir noch. Weise ja scheinst du, wilder im Sterben. Ratest nach meinem Namen. Siegfried bin ich genannt.
Thank you. écoutez Easy Classique sur francemusique.fr.
Thank you. Thank you. C'était les nuits de France Musique. Voici tout de suite la tribune des critiques de disques par Jérémy Rousseau.
La tribune des critiques de disques, France Musique, Jérémy Rousseau.
Au programme cet après-midi, Maurice Ravel, Le tombeau de Couperin. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche après-midi autour de Ravel et du tombeau de Couperin. C'est le Rigaudon que nous écoutons en générique. Cette pièce qui est l'une des six pièces composant cette suite pour piano de Maurice Ravel, composée entre 1914 et 1917, c'est la dernière pièce pour piano seul de Ravel. On va écouter trois extraits cet après-midi. Le prélude, le menuet, le délicieux menuet dont on parlait à l'instant hors micro avec nos trois invités, et puis la toccata. Ces trois invités, juste à ma droite, Mélissa Kong, de Classica et de pianiste. Bonjour Mélissa, bienvenue à vous.
Merci Jérémy, bonjour.
À vos côtés, de Classica et de Backtrack, Alain Lompège. Bonjour Alain, bienvenue
bonjour.
Également. Et juste en face, à gauche, Négar Aéri. Bonjour Négar.
Bonjour.
Vous êtes avocate, pianiste et aussi vous chroniquez, on vous retrouve régulièrement dans le magazine Pianiste.
Voilà. Absolument.
Est-ce que vous avez une version préférée, une version favorite du tombeau de Couperin ?
J'ai pas une version favorite, j'en ai plusieurs.
Ouais.
J'ai pas encore réussi à trouver l'interprète qui m'enchantait sur l'ensemble des pièces.
Ouais.
Je suis pas sûre de vouloir donner des noms,
d'accord.
Par peur de me trahir.
Alain Lompège va donner des noms ?
Oui.
Vlad Perlemutter.
Oui, Vlad Perlemutter,
ouais. Mais bon,
bien sûr.
Ouais.
Mais également Samson François.
Oui, intéressant. Voilà. Mélissa ?
Alors moi, récemment, j'avais écouté la version de Clément Lefebvre. Qui est
d'accord, une version très récente.
Une version récente qui s'ajoute aussi aux versions récentes, ouais. Par exemple de Nathalie Lichtenstein ou de Javier Perianès. Voilà,
c'est une œuvre.
C'est de plus en plus enregistré. On y revient dans quelques instants.
Et de mieux en mieux.
On y revient dans quelques instants à ce tombeau de Couperin. Je vous rappelle que la semaine dernière, c'était Schubert, le quintet à deux violoncelles, qui a vu l'arrivée en tête du quatuor Prajac et de Marc Copé chez Harmonia Mundi. Suivi de ce jeune trio qui s'appelle, qui s'appelle le quatuor Pavel Haas, et c'est la version des Prajac, suivi d'Artemis et de Pavel Haas, c'est le trio de tête, celui que vous avez choisi durant quelques jours sur le site de France Musique. Xavier Delebarre nous écrit la chose suivante, c'est une œuvre, ce quintet de Schubert, que j'écoute toujours avec beaucoup d'émotion, car c'est un des morceaux que mon père avait choisi pour son enterrement. J'en ai une version qui est celle du quatuor Orpheus, mais en écoutant la version lauréate de ce jour, j'ai été particulièrement sensible à l'intensité de l'interprétation, en même temps tout en retenue. Les extraits que j'ai entendus résonnent particulièrement juste avec les sentiments, et ils m'ont transporté au-delà de ceux de son auteur jusqu'au plus profond de mon cœur. Merci de me l'avoir fait découvrir, je m'en vais chez mon disquaire dès cette semaine. Voilà. Le quatuor Prajac. Et nos auditeurs, cette semaine, pour le quatuor de Schubert, remportent le disque du quatuor von Quick, Schubert, paru chez Harmonia Mundi. Et cette semaine, si vous nous écrivez autour du tombeau de Couperin, vous gagnerez très beau disque de l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch, avec la valse et la rhapsodie espagnole de Ravel et une œuvre de Benjamin Attahir qui s'appelle Ad d'Or. Voilà, et c'est paru chez Alpha également. Ce tombeau de Couperin, venons-y, je l'ai dit, il a été composé entre 1914 et 1917, créé par Marguerite Long à la salle Gaveau. L'hommage s'adresse moins à Couperin lui-même qu'à la musique française au XVIIIe siècle. Ça, c'est Ravel qui le dit. On va entendre trois extraits, je l'ai dit, le prélude en mi mineur qui l'ouvre et qui ouvre le cycle et qui est noté vif. On a parlé, je vous ai fait réagir au tout début d'émission sur vos versions favorites, on parle Perlemutter, bien évidemment, qui a dit, je crois... c'est Ravel qui a donné un conseil à Couperin, qui a dit que le premier mouvement, le prélude devait, je n'ai plus l'expression sous les yeux, sonner comme, comme du hautbois, je crois.
Ouais,
une toute petite expression.
Oui, c'est vrai, oui, ça me dit quelque chose.
Alors, il n'y sera pas. Samson François n'y sera pas non plus. J'ai choisi 6 versions enregistrées au cours des 40 dernières années. Voilà. Alors, peut-être que ceux que vous avez cités y seront ou pas. On verra. Si vous êtes prêts tous les trois, on va entendre le prélude en entier de ce tombeau de Couperin de Ravel dans la version A. Le prélude du tombeau de Couperin de Ravel dans la version A. Mélissa Kong, à vous l'honneur.
C'est une version vraiment virtuose. Là, je crois que au niveau technique, on n'a rien à reprocher de cet interprète-là. J'aime beaucoup la recherche de la transparence, quoi, qui est complètement essentielle quand on interprète Ravel. C'est un prélude qui est livré comme un prélude, c'est-à-dire en un seul souffle, avec une ambiance ou une attention, un caractère que l'interprète arrive à soutenir jusqu'au bout, d'un bout à l'autre. Donc, c'est vrai qu'on finit un tout petit peu essoufflé après, parce que le tempo est assez allant. Il y a peu de respiration et la façon d'interpréter en un seul bout, on va dire, du bout à de l'autre, fait en sorte qu'il manque peut-être ce genre de paradoxe qu'on peut trouver dans cette musique-là, un peu de respiration, des couleurs qui vont se varier, qui vont évoluer, métamorphoser, voilà, il manque un peu de ce côté imaginaire.
Livré d'un seul tenant, oui. Sans... Ouais. Négar, Aïri, qu'en dites-vous de votre côté?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mélissa, je trouve que c'est techniquement assez irréprochable, il y a vraiment une digitalité assez intéressante. D'ailleurs, l'exercice est plutôt réussi puisque le but du prélude, c'est quand même de délier les doigts, quoi. Donc, il y a quelque chose de tout à fait cohérent dans la performance. Moi, j'aime beaucoup cette espèce de clarté que l'interprète a. La seule chose, c'est que je trouve que c'est un peu agité. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas exactement la cause de cette agitation, mais je ne me sens pas forcément sereine quand j'écoute ce prélude-là.
Oui.
Ce que je trouve un peu dommage, je pense qu'on peut trouver mieux, donc je n'exclus pas qu'il y ait une meilleure version,
bon, oui.
Même si elle est déjà pas mal pour une première.
C'est un peu agité alors que c'est noté vif dans la partition.
Justement, c'est joué vif.
Oui.
Mais je dirais, ça me fait penser à un envol d'oiseaux effarouchés, ce prélude. Parce que le pianiste est, comment dire, il y a quelque chose d'instable, de fuyant en avant, toujours courant en avant, quasiment de l'ordre de la panique. Et c'est, je trouve, très expressif. C'est une façon très expressive, je trouve, de concevoir ce prélude et d'y insuffler déjà quelque chose de tragique, alors que la musique, en apparence, ne l'est pas vraiment. Et le résultat est très étonnant et déstabilisant. C'est très déstabilisant. Et je ne trouve pas ça particulièrement clair. Hein. C'est quelqu'un qui a des doigts magnifiques, hein, évidemment. Mais il pourrait y avoir davantage de respect des gradations de dynamique. Et il y a plein de petites nuances qui sont écrites, qui ne sont pas toujours faites. Mais d'ailleurs, plus on avance, et c'est très intéressant, parce que c'est ce qui fait que ça a un caractère très vivant. C'est que ça change, il change beaucoup en avançant dans le prélude, et vers le milieu et la fin, il respecte un peu plus les changements de nuances et tout. Enfin, ça m'intéresse toujours, j'écoute.
Bon, c'était la A, voici la deuxième, la version B. Voilà la version B. Vous parliez tout à l'heure, Négar, d'une digitalité irréprochable à propos de la A. Même qualificatif ici, non ?
Ouais, même qualificatif, avec un jeu de pédale quand même super maîtrisé, je trouve, parce que je pense que c'est l'une des problématiques, enfin l'une des difficultés de cette œuvre, c'est que ce ne soit pas trop brouillon par la pédale. Et je suis assez curieuse d'entendre ce que cet interprète va nous jouer pour les morceaux suivants. Ouais, effectivement, les mordants qu'il fait sont très très jolis. Enfin, c'est ces espèces d'ornements qui nous rappellent le baroque. Je trouve que c'est très bien fait. Il y a une forme de raffinement aussi. Alors, j'ai l'impression, en revanche, qu'il a un peu le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que il y a presque une attention porté à l'excès à chaque note et au détail, ce qui me donne le sentiment que c'est presque trop séquencé. Il y a au contraire de la version précédente, il n'y a plus le côté d'une traite et d'un seul élan. Mm-hmm. Et puis cette espèce de d'intérêt pour le détail, parfois créer des rubatos peut-être un peu excessifs. Je sais pas, je suis partagée, mais ouais, je reste très curieuse.
Vous trouvez, elle n'empêche, que l'attention portée au détail nuit à la ligne ou... Non, pas du tout.
Pas du tout. Non, parce que au contraire, je trouve qu'on entend davantage de choses.
Mm-hmm. Oui,
dans
ne serait-ce que les mordants, comme
tous les mordants,
Négas,
et incroyable. Aussi des choses à la main gauche, ouais, qui sont extraordinaires. Et je trouve qu'il est plus stable aussi. Il n'y a pas ce côté tragique qu'il y avait chez l'autre, du ouais, tout.
On joue ici.
Là, on joue, oui. Mmh. Et puis, oui, on est plus dans le côté un peu improvisant, peut-être. Oui. C'est-à-dire que, de temps en temps, il s'attarde un petit peu sur quelque chose, bien sûr, mais c'est fait toujours avec goût. Et alors, chez Ravel, il y a quand même souvent des soufflets expressifs. Hein, c'est des accents. Et ça, il le fait très bien. Et le grand crescendo, à la fin, il le respecte absolument magnifiquement. Ce qui fait que... je trouve que c'est plus, comment dire, c'est plus complet. Je sais pas comment dire ça. Il y a davantage de choses qui se passent. Et donc, ça peut parfois peut-être paraître être un peu trop, mais en réalité, je ne pense pas. Parce que chez Ravel, il y a toujours cette... Le problème chez Ravel, c'est qu'il ne faut pas sombrer dans la mécanique. Voilà. Et lui ne sombre justement pas. Et il fait entendre plein de choses partout. Et qui sont toujours intégrés quand même dans la ligne et dans le discours, et ça a un côté... enfin, ça me plaît beaucoup.
Bon, ça vous plaît beaucoup aussi, Mélissa ?
Oui, également. Alors, je suis impressionnée par le toucher. Je trouve, oui, que c'est un toucher qui arrive à incarner justement le paradoxe de cette œuvre-là, qui est un hommage à la fois à la musique française du XVIIIe siècle et aussi à la musique française du XXe siècle. Et l'interprète arrive à avoir un toucher qui est à la fois un peu détaché, pas complètement lié, pour bien sûr imiter cet univers sonore du clavecin, et en même temps évoquer toute une richesse de couleurs aussi de son instrument, qui est extrêmement ravelien. Ça, je trouve, l'interprète arrive justement à concilier déjà ces deux mondes qui existent dans cette œuvre-là. Et comme tout le monde a souligné, il y a cette vie intérieure des ornements aussi. Donc les ornements vivent, ça brille, et il y a même une fébrilité dans le discours qui va dépasser la joliesse, qui apporte sur un autre échelon d'émotions. Donc, comme Alain avait dit, il n'y a pas de tragédie, mais il y a quand même une fragilité,
oui,
qu'on le sent.
Ah oui. Mmh. Ah oui.
Version C.
Thank you.
le prélude du tombeau de Couperin dans la version C. Alain Lompesch, qu'est-ce que cette version apporte ou apporterait que les deux autres n'avaient pas ?
Je crois pas grand-chose, mais en réalité, elle est quand même très bonne. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose de, je trouve, supérieurement équilibré. Mais elle souffre d'un gros défaut. C'est que c'est un son de piano claironnant, sans grave. Et donc, ça donne une sonorité assez sèche et désagréable à ce pianiste. Alors, c'est vraiment qu'il abuse du non legato. Même quand il joue lié, ça sonne trop détaché. C'est dommage. Parce que je trouve que tempo, la façon qu'il a de conduire, toute la continuité dramatique et tout ça est parfaitement tenu, c'est très équilibré, très bien joué, les détails sont à leur place, les ornements sont sur le temps, je trouve ça très bien, j'aurais énormément de difficultés à en dire du mal. J'aurais aussi beaucoup de difficultés à m'enthousiasmer vraiment pour. En revanche, je regrette vraiment cette sonorité.
Oui, mais ça contribue pas au côté, je sais pas, lutté. On pourrait imaginer, je sais pas, un luth du 18e.
Mais un luth, ça a un son très chaleureux.
Oui.
Très chaleureux. Mm-hmm. Peut-être, d'ailleurs, mais.
Ce côté un peu.
Non, mais ce que vous dites me fait penser que peut-être à la production, on a eu la mauvaise idée de vouloir imiter ce que ces gens-là pensaient du son du 18e, mais c'est pas ça le son du 18e.
Non, mais...
Et d'ailleurs, en fait, comment dirais-je, ça ressemble pas au clavecin du tout, quoi, il faut le dire. Mm-hmm. Pas du tout. Tout ça est totalement fantasmé. C'est de la musique du 20e siècle, c'est 100% Ravel, et voilà, quoi. Donc, ouais. Ça me gêne un peu, ce problème de son me gêne. Ouais, quand même. Esthétiquement, sur le plan esthétique.
Hein. Mélissa Kong.
Comme Alain, je suis un peu partagée aussi. Mais je crois que les points forts de cette version-là, c'est vraiment le respect du texte.
Oui.
On a ça beaucoup plus dans ces versions que dans les deux précédentes. C'est pas un défaut, mais c'est quelque chose quand même assez admirable parce que là, on a toutes les nuances restituées. On a un sens de l'équilibre et de l'architecture également, qui est facile à oublier, parce que dans les œuvres de Ravel, il y a tellement de changements de caractère. C'est quand même un discours qui est difficile à construire, comme par rapport à une sonate de Beethoven, par exemple. Donc là, je trouve le sens de la construction est très, très bien fait. Et puis, sur les ornements, là, on entend une vraie différence entre la façon d'exécuter les ornements dans cette version que dans la version précédente. Les ornements sont plutôt intégrés dans la phrase, un peu comme en jeu du Chopin, par exemple.
Ils ne brillent pas comme les autres.
Ils ne ressortent pas, voilà.
Ils sont sur le pont, ils sont
voilà,
intégrés.
C'est fait de manière cantabilée, de manière lyrique dans la phrase.
Ouais. Négar.
Moi, je trouve que c'est une très très belle version et je suis tout à fait d'accord avec Alain et Mélissa. C'est presque une version qui pêche par son positionnement dans la tribune des critiques, parce que c'est difficile, je trouve, de passer après la version précédente, tellement la précédente avait une belle narration et une narration très personnelle. Là, tout à coup, c'est vrai qu'elle paraît, celle-ci, un peu plus fade, mais le terme, évidemment, je l'utilise avec des guillemets, parce que c'est une magnifique version quand même. Comme le disait Mélissa, très respectueuse du texte, il y a une véritable unité du début jusqu'à la fin, ce que moi, j'avais pas dans les deux précédentes. Et puis cette fin-là, cet élan, on dirait des petites clochettes qui scintillent. Donc c'est très joli. Et c'est vrai que le son, hélas, est moins beau que la précédente version, qui avait une très belle sonorité. Mais il y a quelque chose que cette version réussit, je trouve, c'est que ce prélude, en réalité, c'est une succession de doubles croches, une succession incessante de doubles croches sur lesquelles sont ponctuées de temps en temps des notes qui forment la mélodie. Et ça, cette espèce de gradation, de dosage, est très réussi dans cette version. Donc ça fonctionne bien, en fait.
Bon. Puis il y a une petite attente sur le mi grave, là, qui est un peu... qui est noté. On attend. Un petit suspense et conclusion avec un... certaines classes.
Oui,
non
ah oui,
ouais.
Ah oui, oui, oui.
Non, voilà, c'était la C, on passe à la D.
Thank you.
La version D du prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel qu'on écoute aujourd'hui dans la tribune des critiques de disques, version, je le rappelle, des 40 dernières années, ce qui laisse pas mal de choix tout de même. Mélissa Kong, où la ranger, cette version qu'on vient d'entendre?
Ça va être difficile de classer, je crois. Ce sont que des versions exceptionnelles. La D rapproche pour moi, rapproche de la A. Dans ce sens de continuité, dans cette recherche de livrer d'un seul souffle, du début à la fin, le prélude, il y a aussi une rigueur rythmique qui est assez admirable, parce qu'il y a une sorte de rigueur dans la pulsation qui laisse toutefois la place aux nuances. On a énormément de nuances, une subtilité aussi de couleurs qui arrive à jaillir malgré cette pulsation assez stricte. Mais on n'a pas cette vitalité qu'on a trouvée dans la B, par exemple. Il y a un côté peut-être un peu plus terne, un peu plus triste même dans cette version-là.
Avec une façon